Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège de ta parole que tu nous donnes d'ouvrir dimanche après dimanche, jour après jour aussi dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'elle est destinée à nous parler. C'est le message, la lettre que tu nous as écrite, Seigneur, pour nous manifester tout ton amour pour l'humanité, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as en projet pour chacun d'entre nous et dans nos vies en particulier. Seigneur, ouvre nos âmes à l'écoute, à la mise en pratique de cette parole dans nos vies de chaque jour, Seigneur. Amen. Voilà, pour ce matin, je voudrais prendre un court passage dans l'évangile de Jean qui met en scène avec Jésus dans le chapitre 20, qui met en scène un personnage sur lequel, à mon souvenir, je n'ai jamais entendu prêcher encore ici. En tout cas, il faut dire qu'on n'a pas fait de lui une réputation très très positive. Son modèle est toujours plutôt péjoratif. Et on entend des expressions souvent qui est devenue quasiment proverbiale. « Ah, tu es comme saint, tu ne crois jamais rien. » Voilà, vous l'avez trouvé, ce n'est pas difficile. C'est donc de Thomas qu'il s'agit. On va lire le récit de cette rencontre avec Jésus. Et cet homme, j'aimerais le réhabiliter un petit peu. Parce que franchement, on lui a fait une très mauvaise réputation. Mais plus que cela, j'aimerais que nous puissions relever dans ce récit ce qui, chez lui, fait écho à nous-mêmes. Et ce qui, chez lui, me fait du bien. Et ce qui, dans les paroles que Jésus, l'échange que Jésus a eu avec lui, nous fait du bien et j'espère nous fera du bien à chacun. C'est connecté, voilà, ça va suivre, sinon tu passes. Thomas me fait du bien d'abord pour une raison, c'est qu'il est le septième cité d'une liste de 12 apôtres, dont vous vous souvenez probablement de quelques noms, et surtout, et en priorité, le trio de tête, Jacques, Jean et Pierre. Mais Thomas n'en fait pas partie de ce trio de tête. Thomas, après ce récit de l'évangile de Jean, chapitre 20, on n'en parle plus qu'une fois dans juste le chapitre après, mais ensuite il disparaît du récit relaté des Écritures. Il ne meurt pas pour autant, comme on le verra tout à l'heure, mais on ne parle plus de lui. Et grosso modo, je considère qu'il est parmi les 12 disciples un de ces petits, avec des guillemets, celui dont on ne parle peu, celui qui n'est pas la vedette, celui qui, lorsqu'il prend la parole, et nous le verrons dans deux autres petits textes de l'évangile de Jean, ne brille pas forcément par sa compréhension des choses. Et donc, à ce titre, Thomas me fait du bien parce que j'ai l'impression de pouvoir m'identifier à lui et je pense que nous aurons les uns et les autres l'impression de pouvoir nous identifier à lui. Thomas me fait du bien pour une deuxième raison, parce qu'il porte un surnom qui est celui de Didyme, Thomas surnommé le Didyme, et ça veut dire le double, ça veut dire qu'il avait un jumeau, tout simplement, ça veut dire cela, son surnom, et que ce jumeau, eh ben, on n'en fait pas mention dans l'Écriture, on ne le voit nulle part. Jésus a appelé Thomas, Thomas a suivi Jésus, et son jumeau, on n'en parle pas, on n'a pas de son histoire. Et ça me fait du bien parce que l'Écriture nous dit que nous sommes, vous et moi, tous des appelés de la part du Seigneur. Et c'est une double raison pour m'identifier un petit peu à lui. Appelé et choisi de la part du Seigneur, malgré ce qui a caractérisé Thomas, pardon, c'est-à-dire ses doutes, sa part d'incrédulité, comme on va le voir un petit peu plus loin. Thomas me fait du bien parce qu'à deux autres reprises dans l'Écriture, il ne brille pas, comme je vous l'ai dit, par sa compréhension des choses. Dans Jean, au chapitre 11, le verset 16, Jésus est en chemin pour aller rejoindre le tombeau de Lazare qu'il va ressusciter. Et Thomas répond, verset 16, il dit aux autres disciples, « Allons nous aussi avec lui pour mourir avec lui. » Il avait compris que Jésus voulait rejoindre Lazare dans ce qu'il avait dit, dans le sens où Jésus allait mourir comme Lazare. Mais ce n'était pas pour tout de suite, et Thomas, il n'a pas compris, il a fait un contresens complet de ces paroles de Jésus. À un autre moment, dans Jean au chapitre 14, les versets 4 et 5, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez où je vais, la destination paradis, et vous en savez le chemin. » Et c'est là que Jésus ensuite va dire, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il indiquait la destination, il indiquait le chemin, c'est-à-dire lui-même. Et Thomas, là encore, au verset 5, lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Là encore une fois, il est complètement à contresens. Il n'a pas compris les allusions spirituelles de Jésus. Il n'a pas dépassé cette condition matérielle simplement. Et cela me fait du bien aussi, parce que je ne comprends pas toujours tout des paroles de Jésus. Je ne comprends pas toujours tout des projets de Dieu, des projets pour ma vie. Et je ne sais pas pour vous si vous comprenez toujours tout. Et là encore, c'est une raison de plus pour m'identifier à lui. Nous allons lire ce texte de Jean au chapitre 20. Il est très court, quelques versets simplement. Thomas, c'est au verset 24 du chapitre 20, appelé Didyme, donc le jumeau, l'un des douze, l'un quelconque parmi les douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint et qu'il apparut à ses disciples, c'est relaté dans les versets précédents. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque de son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux cette fois-ci. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Un verset qui était probablement une salutation qui avait peut-être une valeur particulière pour Thomas parce que j'imagine le trouble à ce moment-là. Des nouvelles dans lesquelles il n'avait pas cru, puis voici que Jésus était là. Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas me fait du bien, car ayant été un témoin oculaire de la vie de Jésus, de ses œuvres puissantes, auditeur de ses messages en direct, témoin de la perfection morale de Jésus-Christ, eh bien, malgré cela, il a eu des doutes. Et il n'était pas le seul. Dans la fin, il est présenté un peu comme le porte-drapeau de ceux qui ont des doutes et de l'incrédulité. Mais à la fin de l'évangile de Matthieu, avant la bénédiction d'envoi que Jésus a adressée à ses disciples, il fait une petite mention au verset 17 de Matthieu 28. Il nous est dit que quelques-uns, donc parmi les disciples, eurent des doutes. Thomas n'était pas le seul. D'autres témoins oculaires aussi avaient des doutes. Et cela me fait du bien aussi, car leur foi a mis du temps à s'affermir. Et Christ a eu de la patience envers eux avant qu'ils ne deviennent des prédicateurs convaincus et convaincants de l'Évangile. Christ leur a laissé le temps d'affermir leur foi, de mûrir leur foi. Et j'en ai besoin aussi de cette patience de Dieu vis-à-vis de ma foi. Je ne sais pas vous. Thomas me fait du bien, car en fait, Thomas ne demandait qu'à croire. Mais il avait besoin de ce petit coup de pouce du Seigneur qui l'aurait aidé. Il aurait aussi pu prononcer cette prière que le père d'un enfant malade qui l'amenait au pied de Jésus pour être guéri a prononcé devant Jésus, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et Thomas aussi aurait pu la prononcer, cette parole. Il avait besoin simplement de ce petit coup de pouce. Et là encore, ça me fait du bien parce que souvent, j'ai besoin aussi dans ma foi de ce petit coup de pouce du Seigneur qui ne nous refuse pas. Je ne sais pas vous. Parce que des doutes, il m'arrive d'en avoir. Des doutes face à des revendications orgueilleuses de la science, c'est mon domaine un petit peu privilégié, d'exercice professionnel, la science qui prétend tout expliquer, et parfois le doute de me dire « mais Dieu a-t-il une place ?» Des doutes par rapport à l'opinion générale qui est tellement diffusée. Qui dans notre monde croit encore ? C'est loin d'être la majorité. Des doutes face au comportement des religions, entre guillemets, s'ils se réclament d'un Dieu qui est plein d'amour, où est cet amour ? Dieu est-il assez puissant pour les reprendre, les corriger, les redresser ? Des doutes par rapport aux épreuves de la vie ? Demandez à Sheila, Barbara, demandez à Raphaël, demandez à Myriam, Thomas, demandez à d'autres qui ont été éprouvés dans leur santé ces derniers temps, sans parler peut-être de plus anciens où on se dit « bon, c'est normal, ils sont vieux ». Mais demandez-leur si dans leurs épreuves récemment vécues ou présentement vécues, ils n'ont pas parfois des doutes. Des doutes, il est légitime que nous en ayons. La vie nous interroge, le monde autour de nous nous interroge face à ce que la parole de Dieu nous affirme. Et on pourrait rallonger la liste à l'infini de ces doutes que nous pouvons avoir. Je ne sais pas vous. Venons-en à Jésus, parce que Jésus nous fait du bien aussi dans ce texte par ses réactions. Au verset 27, lorsqu'il dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus, en fait, ce n'est pas un verdict qu'il pose sur Thomas. Mais c'est beaucoup plus une invitation. Le texte littéral devrait être plutôt traduit « ne deviens pas incrédule ». C'est-à-dire que tu t'engages peut-être sur une pente qui pourrait aboutir à l'incrédulité. Ne deviens pas incrédule, mais croyant. Et donc ce n'est pas un verdict que Jésus pose par rapport au doute de Thomas, mais c'est une invitation. Et cela me fait du bien de me dire que face à mes doutes, parfois, Jésus ne pose pas d'emblée un verdict, ne me rejette pas, mais qu'au contraire, il m'accompagne vers devenir un croyant, un affermissement de ma foi. Jésus, à son propos, le prophète avait dit « Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore ». Cette petite flamme de foi qu'il y a en chacun de nous, notre Dieu ne demande qu'à la raviver, la ranimer. Et j'en ai besoin régulièrement, je ne sais pas vous, ce matin, peut-être. Jésus me fait du bien parce qu'il prononce sur nous cette béatitude supplémentaire à toutes celles qu'il avait déjà prononcées dans le serment sur la montagne, que vous connaissez peut-être, que vous revient à votre mémoire, il prononce cette béatitude au verset 29. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On l'a compris comme une condamnation forte vis-à-vis de Thomas, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça exactement, c'est une parole pour ceux à venir. Parce que la vie de Jésus, ça a été 33 ans, ça a été 3 ans de ministère, ça a été la crucifixion, ça a été sa résurrection dont ils ont pu être témoins. Et ensuite, la page a été tournée, si je peux dire. Il y a eu un autre témoignage que celui vécu devant ces hommes et ces femmes. Il y a eu le témoignage des évangiles, dans lesquels des témoins oculaires ont relaté ce qui s'était passé. Et ce verset n'est pas une invitation et une injonction à croire sans comprendre, sans preuve, sans réflexion. Ce verset, au contraire, c'est une invitation à nous dire « Vous n'avez plus le Christ physique présent parmi vous, mais vous avez autre chose et soyez heureux de parvenir à la foi sur la base de ces autres témoignages que vous pouvez croiser, que vous pouvez corréler entre eux pour vérifier qu'ils sont véritablement la vérité. Certains ont entrepris à propos de la crucifixion, de la résurrection de Jésus, un plaidoyer pour détruire ce que les textes de l'Écriture disent. Ils n'y sont jamais parvenus. Au contraire, plusieurs d'entre eux sont parvenus à la foi dans cette entreprise. Et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est une invitation à ce que nous puissions vérifier ces témoignages et que nous puissions être spectateurs aussi de ce qui s'en est suivi, des millions de vies d'hommes et de femmes transformées, des vies radicalement transformées par le salut que Jésus-Christ a porté, des vies délivrées, des esclavages de toutes sortes, et il y en a plusieurs ici qui peuvent en témoigner également, des gens engagés dans la violence, dans la haine, transformés radicalement dans l'amour. Et cela aussi, ce n'est pas voir le Christ en personne, le toucher dans sa chair, mais c'est voir le Christ maintenant à la gloire de Dieu, à l'œuvre dans les vies, et le Saint-Esprit à l'œuvre. Et cela me fait du bien aussi. Cela me fait du bien de voir que Jésus ne refuse pas ce dont le faible dans la foi a besoin pour croire. Thomas était demandeur. Jésus lui a répondu, lui a donné les éléments d'identification dont il avait besoin. Parce que les éléments d'identification que Thomas a retenus dans sa question, au verset, dans son intervention au verset 25, « Si je ne vois dans ta main les marques des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Dans cette affirmation, Thomas fait une référence. Il fait une référence à la croix. Et Thomas, lorsqu'il demande ce soutien à sa faible foi, il va à la croix. Il est tout imprégné encore de l'émotion et du souvenir de la croix. Et c'est là qu'est posé le rendez-vous de la foi. Il y a là des éléments d'identification que Jésus va lui donner. Parce que la croix, c'est le rendez-vous de la foi. Et c'est le rendez-vous de la foi pour Thomas, c'est le rendez-vous de la foi pour chacun de nous. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens que la croix était sa prédication primordiale. En introduction à cet épître, il dit: les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, c'est-à-dire ils veulent des preuves qui sont de l'ordre de la réflexion philosophique pour les Grecs, de l'ordre du vécu spectaculaire. Il y en a d'autres aujourd'hui aussi qui sont à la recherche constante du miracle et du miracle pour croire. Non, l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs. Comment Dieu peut venir sur cette terre et accepter d'être mis sur une croix et qui est une folie pour les païens? Mais ça rime à quoi que le Très-Haut vienne sur cette terre à la rencontre des humains dont la distance dans leur philosophie était totalement infranchissable? Et l'apôtre Paul poursuit en disant que la croix, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. En quoi Dieu est fou devant la croix, dans la croix, le don de la croix? C'est l'amour fou de Dieu vis-à-vis des hommes qui l'ont trahi, qui ont péché, qui ont sali son nom de créateur. Et la croix est la manifestation de cette folie de Dieu qui accepte que son Fils, lui le parfait, meurt à la place des hommes. La folie de l'amour de Dieu à notre faveur. La croix, la faiblesse de Dieu qui est plus forte que les hommes. Le Très-Haut qui vient se faire le plus petit, le plus insignifiant, qui accepte, alors qu'il aurait pu y échapper, d'être cloué sur cette croix, là encore, pour notre amour, pour que la justice de Dieu soit satisfaite par rapport au péché de notre humanité. C'est à la croix que se fait le rendez-vous de la foi. La question pour Thomas était de croire ou de ne pas croire. Qu'est-ce que Thomas en a fait ? Je vous ai dit, l'Écriture ne nous dit plus rien à son propos. Il est présent dans le chapitre, dans les versets suivants, à un autre rendez-vous de l'apparition de Jésus, et ensuite il disparaît. La tradition historique nous dit qu'il est parti porter l'Évangile jusqu'en Inde, qu'il y a fondé l'Église chrétienne et qu'il est mort en Inde comme martyr. Voilà ce qu'a produit la foi étayée sur le témoignage de la croix. Croire ou ne pas croire, c'est aussi la question qui se pose à nous ce matin. Sur nos bancs ici, peut-être dimanche après dimanche, il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes pour qui la question n'est toujours pas résolue. Est-ce que je crois ou je ne crois pas ? Ils sont sympas, je viens, il y a de la musique, c'est super. Mais personnellement, où en sommes-nous ? Où en es-tu ? Croire ou ne pas croire devant cette marque de la croix, devant cette interpellation que constitue la croix ? Dans quelques instants, nous allons être placés devant ce qui constitue également l'émotion et le souvenir de la croix. Je veux dire, ce pain et ce vin que nous allons prendre, distribuer parmi nous, en réponse à cet ordre de Jésus de nous souvenir de la croix et de sa résurrection. C'était le cœur du message et de la rencontre avec Thomas. Et il y a là un parallèle frappant, je trouve, et un parallèle qui m'a paru assez évident, j'espère qu'il l'est pour vous aussi, entre ce que réclamait Thomas, à savoir voir de ses yeux et toucher de son doigt les marques du sacrifice de Christ et être placé devant l'évidence de la résurrection, et ce que signifie la scène pour les chrétiens, manger du pain, boire du vin, en souvenir du corps brisé de Christ sur la croix et du sang versé pour chacun d'entre nous. Et j'ai résumé un petit peu les implications de la croix pour notre vie personnellement, le pardon de nos péchés, le don du Saint-Esprit, un renouvellement de vie, la manifestation dans nos vies de la puissance de Dieu pour renouveler et générer une vie à l'image de Jésus-Christ. Nous allons prendre un petit temps pour nous examiner nous-mêmes, réfléchir, croire ou ne pas croire devant le témoignage de la croix. Si vous ne croyez pas, ne participez pas à ce mémorial que nous allons distribuer ici, que Benjamin va venir distribuer. Interrogez l'Évangile, demandez à Dieu de se révéler à vous, de vous convaincre dans vos doutes, peut-être encore, vos hésitations. Demandez-lui de vous illuminer par son esprit pour pouvoir déclarer comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et pas simplement le Seigneur et le Dieu que l'on adore dans cette Église ou que l'on accepte de suivre dans cette Église, mais « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et si vous croyez, même si vous faites le constat ce matin de la faiblesse de votre foi, participez à ce repas dans la confiance que Christ peut et veut ranimer cette foi jour après jour par le témoignage des Écritures, par le témoignage de son action par l'Esprit de Dieu dans nos vies, par le témoignage de nos frères et sœurs tout autour de nous. Dieu veut ranimer notre foi, même si elle est chancelante. Nous allons prendre un petit temps de réflexion. Benjamin viendra ici ensuite prier et organiser la distribution du pain et du vin. Que le Seigneur puisse œuvrer dans nos cœurs à l'écoute de sa parole et que Thomas dans ce qu'il a dit, le parcours qu'il a fait, comme Jésus dans ce qu'il lui a répondu et le chemin qu'il a fait avec lui dans ses doutes, puisse nous faire du bien aux uns et aux autres. Amen.